marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Ici, au moins je suis chez moi, au milieu de mon village, dans ma maison.
George Sand, écrire pour Nohant, écrire à Nohant.
Quelle grand-mère fut-elle pour vous ? Avez-vous le souvenir de la vie qu'on menait à Nohant autour de George Sand à cette époque ?
Certainement. La vie était une vie tout à fait familiale, très unie, très heureuse, très gaie, pleine de fantaisie et de régularité. Une vie de famille exemplaire.
Et à la maison, il se passait de si drôles de choses. Car la vie familiale ici, il y avait souvent des tempêtes et toutes sortes de choses, plus ou moins. C'était pas tout rose. Et les bagarres, et les enfants enlevés, et les disputes, et les... Puis il y a eu des jalousies. Alors, il y a eu des drames à ce sujet. Et c'était la révolution même à la maison.
Aurore Sand, la petite fille de Georges, et puis une paysanne du Berry de la même génération. Bah oui, sur Nohant, on peut avoir des points de vue très différents. On peut soutenir que c'est un château, attendant pour son entretien les revenus de ses 200 hectares de terre. Non, répondait Daniel Alévy dans ses visites aux paysans du centre. C'est une grosse maison, veillant à ses alentours comme une mère poule, protège ses poussins. Alévy, admirant l'intérieur, particulièrement la cuisine, y voyait un monument de magnificence ménagère. Mais on peut aussi bien attester que l'argent manquait constamment et que George Sand écrivait pour combler dans l'urgence les dettes béantes de Nohant. Nohant est multiple. C'est une habitation à la recherche d'un plus grand confort. C'est un projet de communauté artistique que les saisons de théâtre, qui se tenaient dans la maison de septembre à novembre, résument au plus juste. La famille, avec au premier chef le fils Maurice, des auteurs, des acteurs, les voisins de la ville, les paysans et les domestiques, tous embarqués ensemble. Nohant, c'est aussi un mode de vie. Vie bourgeoise, nullement. Georges ne concevait pas une maison repliée sur elle-même. Vie d'artiste, sans doute. Vie de bohème, certainement pas. Georges Sand aimait la règle et la tenue. Par exemple, il ne fallait pas compter sur elle pour décrire les conduites sexuelles des uns et des autres. Nohant, surtout peut-être, c'est un jardin de 5 hectares où se sentir oiseau, fleur, végétal, minéral, où sentir toute la vie à nous connue se manifester en soi. Bref, un petit monde sans clôture, une parcelle du monde.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Michel Perrault, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Georges Sand à Nohant, un grand livre aux éditions du Seuil, médité de longue date. Vos premières visites à Nohant datent des débuts de votre mariage dans les années 1960. Ça ressemblait à la Cerisaie, dites-vous, à l'époque.
Oui, tout à fait. C'était une maison un peu abandonnée, on avait cette impression. Et j'ai eu la chance de la visiter avec la vieille dame
qu'on
entendait tout à l'heure, qui était très âgée. Elle est morte en 1961, presque centenaire. Et elle ressemblait un petit peu à Virginia Woolf, enfin, je l'ai du moins imaginé comme ça. Oui, c'était une maison de campagne, pas du tout bourgeoise. C'était vraiment un peu une cerisée, un peu déconfite, si vous voulez. Et c'est ça qui m'a attiré.
Delacroix, un des hôtes de Nohant. Il faut vieillir pour apprécier un Nohant.
Oui, probablement. Parce que il y a dans Nohant une certaine sérénité, une certaine sagesse, une certaine mélancolie aussi. Et il faut peut-être du temps pour apprécier ça. En tout cas, Delacroix le pensait comme ça.
Et vous, il vous a fallu du temps pour découvrir l'ensemble des mérites de George Sand, que vous trouvez un peu fade quand vous êtes jeune.
Oh, je ne l'aimais pas du tout. Je dois vous dire, je la trouvais bonne dame. C'est la réputation qu'elle avait. Je la trouvais plutôt ennuyeuse. Et moi qui étais éprise de Simone de Beauvoir, qui n'aimait pas beaucoup George Sand, faut le dire, bon, je la trouvais pas très intéressante. Et je l'ai découvert après. On a parlé de la maison. La maison a été un peu pour moi l'entrée, le point d'interrogation. Mais évidemment, je l'ai découvert par ses textes.
Alors la maison est héritée de la grand-mère de George Sand, Aurore, fille naturelle du maréchal de Saxe, veuve de fermier général, qui achète le domaine en 1793 parce que le Berry étouffe les bruits du siècle, diminue les fureurs de la Révolution. Un morceau de bravoure de José Arthur avec Jacqueline Maillan. Pourquoi le Berry ?
Madame Georges Sand, pouvez-vous en quelques mots me situer le Berry ?
Ah, c'est la patrie du calme et du sang-froid. N'y allez chercher ni grands effets, ni grandes passions. Vous n'y trouverez de drame ni dans les choses, ni dans les êtres.
Mais vous avez écrit, je crois...
Oui. Hommes et plantes, tout y est tranquille. Patient, lent à mûrir. Des travailleurs paisibles, de grandes prairies désertes, où rien n'interrompt ni le jour ni la nuit, le chant monotone des insectes. Une langue correcte, qui n'a d'inusité que son ancienneté, enfin, tout un ensemble sérieux, triste et riant selon la nature du terrain, mais jamais disposé pour les grandes émotions ou les vives expressions extérieures.
Au fond, elle a électrisé le Berry, qu'elle trouvait peut-être indolent, et puis elle a inventé un paysage qui peut-être n'est pas si exceptionnel que cela, parce qu'elle l'a nommé.
Elle l'a appelée la Vallée Noire. C'est elle, à elle qu'on doit cette expression. Et tout de suite, ça donne une profondeur à ce pays, un peu plat quand même, c'est vrai. Mais elle l'a véritablement inventé, créé. Et on voit un peu le Berry avec ses yeux après, c'est vrai.
Une terre de 200 hectares, où elle dit « je suis un paysan ». Elle disait aussi « je suis un voyageur ». Enfin, c'était pas l'époque de la féminisation. Un paysan, vraiment. Alors, vous avez étudié la manière dont elle a géré, parfois directement, de 1840 à 1860, cet immense domaine. Parce que, aux dimensions du Berry, c'est immense.
Oui, c'est très grand. C'était un pays de petite tenure. Les paysans avaient racheté beaucoup de terres au moment de la Révolution, qui a quand même marqué véritablement le pays à ce moment-là. Et c'était divisé, les 200 hectares étaient divisés en trois fermes. Il y avait trois fermes. Et au début, elle a véritablement voulu le faire elle-même. Alors, elle aimait mettre des sabots, aller dans les champs, discuter avec ses fermiers, etc., etc. Et puis, elle s'en est lassée, quand même. Elle s'en est lassée parce que d'abord, elle écrivait. Et c'était quand même beaucoup d'énergie. Alors après, elle a progressivement délégué. Et voilà.
Le père qui s'était illustré dans les armées de l'Empire et d'abord de la Révolution avait ôté les clôtures, notamment les clôtures du jardin. C'est un jardin sans clôture. Alors le jardin, un jardin immense, 5 hectares.
5 hectares,
oui, pour un jardin.
Oui, oui. Mais elle détestait le mot « parc ». Ça fait beaucoup trop aristocratique, elle détestait l'aristocratie, il ne faut pas l'oublier. Et par conséquent, c'est un jardin ouvert, naturel, mais dans ce jardin naturel, elle a acclimaté je ne sais combien de plantes nouvelles. Ça a été étudié d'ailleurs par des spécialistes.
Parce que parmi vos plus belles pages, celles concernant les fleurs, et puis les relations avec le monde de la botanique, avec les savants qui s'occupent de botanique, avec qui elle a des correspondances.
Oui, les sciences naturelles, pour elle, c'est le monde, l'entrée dans le monde, la compréhension du monde. Et il y a la botanique, il y a la géologie et il y a l'entomologie. Alors l'entomologie, c'était Maurice.
Le fils, 1823, sa naissance.
Voilà, et qui récoltait, si l'on peut dire, des papillons, les classait, a écrit un livre sur les papillons qu'elle a préfacé. Mais la géologie, elle s'y est beaucoup intéressée. Elle a fait venir un savant qui s'appelait Brottier, qui était un philosophe et auquel elle doit beaucoup. Mais la botanique, c'était quand même son affaire. Mais elle voulait une botanique pas de jeune fille, pas jolie. C'était pas ça. Il fallait connaître les noms et la généalogie des plantes. C'était comme une espèce d'introduction au monde.
La tenue, la règle, le classement, ça caractérisait aussi Georges Sand. Les domestiques. Alors, une centaine de domestiques passent en un demi-siècle. L'une d'entre elles a une correspondance régulière avec Georges Sand. Comment sait-on ses rapports avec les domestiques? Comment peut-on savoir quelque chose des domestiques de 1830-1840?
On le connaît par elle. Et de ce point de vue-là, on peut bien dire que les domestiques sont un peu les inconnus dans la maison. Mais enfin, elle en parle beaucoup, beaucoup, parce que c'est une préoccupation quotidienne et qu'elle n'a pas un regard du tout de mépris, de condescendance pour les domestiques. Ce sont des autres, véritablement, auxquels elle voudrait apprendre à lire. qu'elle voudrait même emmener au théâtre, à être acteur. Et oui, c'est un monde fascinant. Et alors, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses dans la correspondance. J'avais fait des fiches un petit peu sur tous ces gens-là, et j'en avais retrouvé plus d'une centaine, dont on arrive quand même à connaître les itinéraires.
Oui, mais l'utopie domestique, c'est le mot que vous employez, est quelque peu illusoire. D'ailleurs, il lui arrive assez facilement de tourner la page avec les domestiques, de les congédier.
Bien sûr, bien sûr. C'est illusoire, d'abord parce que les domestiques, c'est quand même les autres, et que leur langage, on s'en moque un peu, on le met même au théâtre, autrement dit, quelque bonté, enfin je ne sais pas quel mot employer, qu'il y ait, il y a toujours ce sentiment de servitude et de distance, dont d'ailleurs elle est de plus en plus consciente. Elle dit, mais il faudrait pas que ce soit comme ça. Il faudrait que les domestiques soient les fonctionnaires de notre intérieur, c'est-à-dire pas du tout payés par des gages, mais par un salaire, qu'ils soient véritablement salariés. Et puis dit-elle, à Paris, au fond, je n'ai besoin d'une femme de ménage. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire de toute cette maisonnée? Et on voit là le changement et en même temps le regard que George Sand porte sur ces questions.
Mais elle voudrait ne pas être propriétaire, mais il faut que la terre rapporte. Elle voudrait ne pas avoir de gens, mais il en faut pour entretenir la cuisine, servir à table à 10-12 convives. Comment d'ailleurs faire vivre Nohant? Il faut écrire pour payer les dettes, régler les avances. La même paysanne qu'on a entendue au début de l'émission, qui est une ancienne qui a connu une des cuisinières de George Sand.
Il y a eu des hauts et des bons points de vue argent. Oh là là, elle a même vendu sa bibliothèque. Nous, on ne l'a jamais connue. Ça a été racheté après des choses, ainsi de suite. Mais elle a vendu souvent. C'était tout à fait, il n'y avait plus d'argent. Et là, elle a souvent dit, ce jardin est très grand et bien cultivé. Elle a souvent dit qu'il vivait là-dessus. Elle devait être très inégale. Elle devait avoir des moments de générosité où elle y allait fort et puis après, il fallait s'attraper parce qu'il n'y avait plus rien. Je vois ça comme ça, parce qu'il y a tout le temps des hauts et des bas dans sa fortune.
Bon, elle mélange un peu, parce que la bibliothèque, elle a été vendue plus tard par la belle fille de George Sand. Mais enfin, des hauts et des bas. Ah, vous avez une phrase superbe. Voilà quelqu'un qui refuse l'épargne et préfère avoir des comportements un peu imprudents. C'est sa façon de rejoindre le peuple.
Oui. Bien sûr, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, comme vous le savez, elle avait un père aristocrate et une mère ouvrière, hein, qui était une petite ouvrière modiste de Paris, la mésalliance fameuse, et elle pensait toujours à l'impécuniosité de ces gens-là. Hein. Et d'une certaine manière, quand elle n'a pas d'argent, ça la gêne beaucoup. Hein. Il faut travailler beaucoup, mais ça la déculpabilise. Quelque part, elle se sent coupable. Il y a une culpabilité très intéressante, parce qu'au fond, je crois que c'est une culpabilité qui a été partagée par beaucoup de gens au 19e et qui explique un certain nombre de choses politiques, le socialisme, etc. Elle fait partie de cette culpabilité-là, elle l'éprouve.
Propriétaire malgré elle, elle veut transmettre en même temps. Alors votre livre est très riche d'enseignements sur le fils, qui a toujours été le bon fils, hein, dont elle va faire le mariage, Maurice, sur la fille, Solange, avec qui les relations sont assez vite tendues. Elle n'aime pas le mariage, ni la vie, ensuite, de Solange. Et vous dites, c'est pourtant Solange qui peut être là le plus aimé et désiré. Le fils et la fille avaient des points de vue très différents sur Chopin, notamment pendant ces 7 étés à Nohant.
Oui, au début, ils ont beaucoup aimé Chopin. Et puis, Maurice, grandissant, s'est senti en rivalité avec Chopin, comme d'ailleurs avec tous les hommes qui entouraient sa mère. Il y avait une certaine jalousie de Maurice vis-à-vis des différents compagnons de George Sand. Tandis que Solange aimait beaucoup Chopin. Elle grandit, elle est jolie. Il y a une espèce de coquetterie qui s'établit entre elle et Chopin. Il est possible que Chopin lui ait fait un peu la cour. Bon, c'est tout à fait possible. Ce qui, évidemment, ne plaisait pas beaucoup à George Sand.
Mais pourtant, Solange disait de Chopin, gentiment, sans sexe. Sans sexe, oui.
Oui. Elle disait ça quand elle était petite, hein, ouais. Quand elle était toute jeune. Peut-être qu'elle a changé d'opinion après, je ne sais pas.
Alors, vous dites que Sand souffrait de l'impuissance, de la maladie de Chopin, dont elle devait s'imposer le rôle de garde-malade à ses côtés.
Oui.
Mais ce qu'elle aimait, c'était le travail côte à côte Et la musique, elle l'a définie comme une association. C'est un beau mot pour Georges Sand, association.
Oui, oui, absolument. Chopin, elle l'a follement aimé, hein, follement aimé. Et elle a aimé sa vie avec lui quand il était à Nohant et quand il travaillait, qu'il composait dans la chambre qu'elle lui avait fait capitonner pour qu'il n'entende pas trop de bruit. Et le soir, il lui jouait ce qu'il avait composé dans la journée. C'était des moments absolument extraordinaires. Hein. Et évidemment, elle a beaucoup souffert et de sa maladie et probablement de son impuissance. Enfin, elle en parle. Et de la jalousie.
Parce qu'en plus, il était jaloux.
Chopin était extraordinairement jaloux. Et il ne pouvait pas tolérer une lettre dont il ne savait pas bien le contenu. Enfin, c'était un problème. Elle a d'ailleurs raconté ça magnifiquement dans un roman qui s'appelle Lucrezia Foriani et qui est un roman de la jalousie qui fait un petit peu penser à l'Albertine de Proust.
Oui, mais enfin, restons, si vous le voulez bien, sur l'impression de l'association. Oui. La sonate numéro 3 en mi mineur, composée à Nohant, et ici interprétée par Émile Guilels.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Un maître-livre, Georges Sand à Nohant, signé Michel Perrault aux éditions du Seuil. On parlait de l'association et des visiteurs. Alors il y a eu d'autres musiciens, Pauline Viardot, six séjours. Pauline Viardot dont Monsieur et Madame Macron visitent la maison à l'occasion des journées du patrimoine.
Oui, parce qu'elle était amie avec Tourguenieff aussi. Voilà.
Alexandre Dumas, fils, 5 séjours de la Croix déjà cité, 3 séjours. Alors il y en a un qui venait souvent, c'est Pierre Leroux. Alors elle avait fait un classement entomologique de tous les socialistes, et celui sur lequel son choix s'était fixé, c'était Pierre Leroux, qui n'est pas le plus séduisant des hommes d'apparence.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce qu'elle appréciait, c'était sa pensée. Et elle voyait chez lui une réflexion synthétique, où à la fois il y avait le socialisme et il y avait l'art. Leroux est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux artistes, un peu dans la foulée de Saint-Simon, si l'on veut. Et du coup, elle pensait qu'elle était utile à quelque chose, là. Et Pierre Leroux n'était pas sectaire, c'était quelqu'un qui cherchait la synthèse. Et ça, ça lui plaisait énormément aussi. Et puis enfin, Pierre Leroux était un homme pratique. Il voulait réaliser une coopérative ouvrière, elle l'a financée, c'était une coopérative typographique pour imprimer des journaux, et ça servait à imprimer les journaux socialistes qu'elle a créés. L'éclaireur de l'Indre, qui n'est pas spécialement socialiste d'ailleurs, mais ensuite le travailleur de l'Indre. Autrement dit, il y avait véritablement théorie et pratique autour de cet homme. Elle a donné énormément d'argent à Pierre Leroux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la fin, elle s'en est un peu lassée aussi, parce que c'était pas toujours très très bien administré.
Oui, l'histoire de son engagement politique républicaine pendant la monarchie de Juillet, très radicale au début de la Deuxième République, se termine par un désenchantement avec l'échec de juin 1848, si la République doit déboucher sur la guerre civile, et il y a un repli politique ensuite, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne garde pas ses convictions, mais on imagine que les années d'après 48 sont seulement des années de repli politique parce qu'elle vieillit, elle est moins sur le terrain parisien, mais que de chantiers à Nohant, l'atelier pour le fils, le théâtre de marionnettes et le théâtre tout court d'ailleurs.
Voilà, dans cette période que vous évoquez, le théâtre a pris de plus en plus d'importance pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle jouait à Paris ses pièces, elle a commencé à jouer à Paris et avec beaucoup de succès. Alors ça lui rapportait davantage d'argent hein, que les romans, les feuilletons, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis elle y a pris goût. beaucoup. Et elle y a pris goût aussi parce que elle répétait tout ça à Nohant. Il y avait à Nohant deux théâtres, un théâtre d'acteurs, et Maurice a fait un théâtre de marionnettes parce que Maurice aimait bien diriger les choses et il trouvait que le théâtre d'acteurs, il le dirigeait pas assez. Donc, mais toutes les soirées étaient, pas toutes, mais presque toutes, occupées par les répétitions. Et il y avait un public. Le public, c'était les gens du coin, hein, les amis, et puis les paysans qui étaient invités et les domestiques. Hein. Elle pensait que c'était un moyen de créer la communauté de Nohant à travers le théâtre. Il y avait une jeune domestique qu'on a appelée Marie Despoules, bon, Marie Caillot, qu'elle a eue toute jeune à son service à 15 ans, à laquelle elle a appris à lire, et qui était très jolie, et elle a dit « mais il faudrait que tu joues ». Et Marie Despoules a joué, et c'était pour elle, probablement, on peut imaginer, parce qu'on ne sait pas, hein, une ouverture extraordinaire au monde. La suite est moins drôle. Marie Caillot a été enceinte. George Sand s'est demandé de qui. Est-ce que ça serait pas son fils? On n'a jamais su. Mais toujours est-il qu'elle l'a éloigné, tout en s'occupant beaucoup d'elle, tout de même.
Jalousie, conflit, 1863. Alors le conflit est à son comble. Maurice n'en peut plus de Manceau, l'amant dévoué de George Sand. Et George Sand préfère quitter avec Manceau Nohant, où elle ne reviendra qu'en 1865. Et là, on approche des dernières années que vous traitez avec beaucoup de sérénité. On a entendu Jacqueline Maillan dans le rôle de George Sand. Voici maintenant, si vous le voulez bien, Juliette Gréco elle-même. Juliette Gréco qui décrit la dernière chambre qu'elle se fait aménager en 1867, je crois, la cinquième, dites-vous. La chambre bleue qu'on visite encore pendant les journées du patrimoine, par exemple.
La chambre de George Sand. Dans cette maison vouée aux visites, pour que la chambre s'anime, que les mots d'une ancienne lettre reviennent bercer les lieux qui les virent naître, grâce à la voix si prenante de Juliette Gréco.
Je couds des rideaux et des courtes pointes. Le tout a l'effet de m'installer ici, dans une chambre plus petite et plus chaude que celle où je travaille. Je me suis tapissée en bleu tendre, parsemée de médaillons blancs où dansent de petites personnes mythologiques. Il me semble que ces tons fades et ces sujets rococo sont bien appropriés à l'état d'anémie et que je n'aurai là que des idées douces et belles. C'est ce qu'il me faut maintenant. J'ai soif de travailler.
Dans le texte de Cali Juliette Gréco, il y a un mot, elle a dit des idées douces et belles. En fait, dans le texte, c'est douce et bête.
Hein, ah, je vous ai vu tiquer. Ouais.
Parce que George Sand se moque d'elle-même aussi. Il ne faut pas oublier cette distance. Il ne faut pas en faire quelqu'un de trop confit dans la féminité, etc. Pas du tout. Elle avait beaucoup d'esprit et elle se moquait d'elle-même aussi. Elle savait le faire.
Il y a de l'ironie dans cette phrase. Depuis que j'ai abandonné définitivement et enterré ma jeunesse, j'ai rajeuni de 20 ans.
Voilà, c'est ce qu'elle écrit à Flaubert, hein, à Flaubert, auquel elle reproche d'être trop pessimiste, etc., de se lamenter. Elle me dit, mais écoute, la vieillesse, c'est pas si dur. Quand on accepte, on y va, voilà.
Faut dire que depuis qu'elle s'occupe moins directement de ses biens, les revenus ont augmenté, les revenus du théâtre augmentent. Oui, oui. Finalement, ses romans ont moins de succès, mais elle est moins pauvre.
Oui, absolument. Oui, oui.
Et la sérénité s'installe?
Oui, la sérénité s'installe. Elle est grand-mère. Ça paraît peut-être un peu bête de parler de ça, j'en sais rien. Mais George Sand disait qu'elle avait la passion de la progéniture. Pas du tout de la conjugalité, pas du tout. Hein. Mais continuer, transmettre, avoir des enfants, des petits-enfants, pour elle c'était important. Je pense qu'il y avait la lutte contre le temps. C'est quelqu'un qui est très anxieux finalement, très mélancolique. Et poursuivre, c'est très important. Elle avait deux petites filles, bon, et la vie est plus douce et moins tendue. Elle a davantage d'argent, ça compte aussi, pas mal. Et donc, en effet, c'est une vieillesse plus sereine.
Oui, mais enfin, en même temps, votre livre est fait en dents de scie, Michel Perrault. Elle connaît la guerre de 70.
Bien sûr.
Elle l'a vue en direct. Elle ne comprend pas la commune qu'elle voit de loin. Oui.
Et alors, la République, qui commence très difficilement dans les dernières années de sa vie.
La République, l'enthousiasme. Hein, ça pour... Une République sans effusion de sang, dit-elle, avant la Commune, hein, c'était le 4 septembre 70. Quelle merveille! Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne comprend pas la Commune. Elle est loin, vous l'avez dit, mais aussi, est-ce qu'on va pas recommencer comme en juin 48 et avoir une dictature? Gardons la République puisqu'on l'a. Voilà. Et elle a écrit un très très beau journal d'un voyageur pendant la guerre où elle raconte la guerre de 70 dans le Berry, parmi les paysans, comment ça se passe, les mobilisations, etc. C'est très passionnant.
Le calme revient, il fait enfin chaud dans la maison.
Oh là là, oui, moi c'était dur. Heureusement, il y avait le calorifère, mais ce calorifère était tout le temps enrhumé, comme on disait. Il marchait plus ou moins bien. Le froid, disait-elle, est mon ennemi personnel. On avait un peu chaud, peut-être.
Et le dernier hiver. Alors, il fait chaud et il y a beaucoup de neige
beaucoup
dehors.
Beaucoup de neige. C'est l'hiver 76, 75-76. Il y a beaucoup de neige dehors, même au printemps encore. Hein. Et elle voit, elle ne sort plus parce qu'elle va pas bien. Et elle voit ça de sa fenêtre, de l'intérieur, alors qu'elle aimait tellement aller dans le jardin. Et là aussi, il y a une espèce de sérénité. Par le regard, au fond, on peut s'approprier les choses. Le regard est ce qui nous reste quand on n'a peut-être plus grand-chose.
Et c'est un enchantement de voir au chaud le froid dehors.
Voilà, exactement.
C'est une maison enchantée, mais toutes les maisons sont fugitives.
Après une marche, quelquefois en plein soleil, de 2 ou 3 heures, elle se jetait dans l'eau glacée et songeait aux baignades passées.
Je pense à ceux qui se sont baignés là, jadis avec nous. Pauline et sa mère. Chopin, Delacroix, mon frère. Nous nous y sommes même baignés la nuit. On venait à pied. On retournait de même. Tous sont morts. Sauf Madame Viardot et moi. Ce pauvre coin champêtre a vu passer des célébrités. Et ne s'en doute pas.
Et dans ce monde sans clôture, le jardin communique avec le cimetière.
Oui, absolument. Oui, oui, oui. Un cimetière qu'elle a organisé à partir des années 1850, et elle voulait y réunir tous les siens. Voilà. Et y réunir les siens sans croix, car elle est libre penseuse. Et un des conflits douloureux qu'elle a eu avec sa fille, c'est que Solange était revenue à la religion, avait perdu sa petite fille, Nini, que George Sand avait tellement aimé et voulait absolument qu'il y ait une croix. Et George Sand ne voulait pas de la croix.
Eh oui, ce sont les fantaisies qui sont imprévisibles des générations qui suivent. Eh bien, c'est votre nouveau et très grand livre, Michel Perrault. George Sand, un an. L'émission a été préparée par Eline Canégulesco, Ribérec à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.